Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma, sinon rien.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour cette dernière de Sine qua non, dernière émission de l'année 2018, en compagnie de Florence.
Bonjour.
De Jean-Pierre.
Bonjour toutes et tous.
Et Adrien sera présent parmi nous virtuellement. Vous entendrez son avis sur quelques films. Pour ce programme du mois de décembre, 10 films de l'actualité sortis entre la fin novembre et cette mi-décembre où nous enregistrons. Et puis évidemment, la tradition le veut, nous vous donnerons nos top flops de l'année à la fin de l'émission. Certains sont encore à l'affiche, d'autres sortis en DVD. Plein de belles idées de films à voir en plus pendant les fêtes. On commence sans plus attendre avec le premier film du programme. Il s'agit d'Amanda de Michael Hirst.
Tu veux pas que je rentre en fait?
Je vais garder un peu avec moi.
J'ai fait connaissance avec Amanda et ta sœur hier. Ça doit être quelque chose, hein, d'élever sa gamine comme ça, seule.
Tous les deux, j'ai tellement peur là. Je...
Juridiquement, vous pourriez être son tuteur.
Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour.
Elle est où la brosse à dents de maman? T'es pas chez toi ici. C'est pas toi qui décides pour les brosses.
Amanda, elle a besoin de toi.
Parfois, j'ai l'impression que c'est plus elle qui est là pour moi.
À droite, toutes. Ah, pas tout de suite.
Tu penses qu'on va réussir à supporter?
Tous les jours?
Tous les jours.
On verra bien.
Amanda, c'est le titre du troisième film de Michael Hirst, après Memory Lane et Ce sentiment de l'été. C'est aussi le prénom de la petite héroïne qui a 7 ans, qui perd sa maman de manière subite, je pense qu'on peut le dire, dans des attentats qui ont lieu à Paris, qui ne sont pas des attentats qui ont réellement eu lieu. Il n'y a pas d'allusion précise au Bataclan ou à cette vague d'attentats-là, mais bon, c'est bien à cela que pensait quand même le réalisateur. Suite à cette perte tragique, David, 24 ans, qui est l'oncle de la petite Amanda, va devoir s'occuper d'elle puisqu'ils ont assez peu de familles, en tout cas assez peu de familles aptes à s'occuper de la petite fille. Le jeune homme était en plus très proche de sa sœur, donc il va de soi que c'est lui qui récupère la garde de sa nièce à un moment donc pas très facile de sa vie, où il cumule des petits boulots, où il vient de rencontrer une jeune fille qui, elle aussi, se retrouve blessée dans ses attentats. C'est donc un film qui évoque le quotidien suite à un tel traumatisme, avec beaucoup de justesse, je trouve. Mais on va tout de suite laisser la parole à Adrien.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour Caro, bonjour Florence. Alors, je ne suis pas avec vous, mais je suis sur mon balcon et vous allez me voir. Je vais vous retrouver 4 fois pendant cette émission. Et donc, je vais vous parler d'Amanda. Je suppose que vous venez de parler d'Amanda parce que c'est le premier film qui est sorti et que j'ai vu. Et je sors à peine de la séance et j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est un film que j'ai trouvé lumineux, sublime. Alors il faudrait que je revoie le premier film de Michael Hirst, Memory Lane, parce que je crois que j'étais passé un peu à côté à l'époque, mais j'avais adoré ce sentiment de l'été. Et là, Amanda, ça continue, il continue le fil qu'il est en train de tisser dans son travail sur le deuil, sur la perte, sur la transmission des sentiments. C'est un film que j'ai trouvé magnifique, très bien éclairé. Vincent Lacoste, cette année, c'est l'acteur qui embrasse le mieux au cinéma entre Aimer plaire et courir vite. Et ici, dans Amanda, quand il embrasse Stacy Martin, bon, j'aimerais bien être à la place des deux, parce que si j'étais homosexuel, je serais amoureux de Vincent Lacoste, et comme garçon, je suis amoureux de Stacy Martin, donc je les aurais bien rejoints pendant qu'ils font l'amour. J'ai trouvé ce film très beau, le personnage de l'enfant magnifique. J'ai adoré que Michael Hirst laisse hors champ le passage à BFM TV, la scène où Vincent Lacoste envoie chier la journaliste qui veut faire son portrait. Ça m'a touché. Bref, c'est un film que j'ai trouvé très beau et que je vous conseille d'aller voir et que j'espère que vous avez aimé.
Merci Adrien, on est d'accord, même si on n'a pas toujours exactement le même point de vue. Alors je note que tu fais une infidélité à Melville Poupeau et que Vincent Lacoste, mais que j'ai trouvé moi aussi très bien dans le film. On est d'accord que c'est un film qui sonne vraiment juste, qui est très pudique et qui aborde le sujet d'une manière assez intime, vraiment centrée sur la perception de ces attentats par des victimes. Je le recommande aussi, sachez qu'il passe encore au cinéma Le Club, Amanda donc de Michael Hirst. On reste dans le deuil avec le film Les Veuves de Steve McQueen, numéro 2.
Il s'est passé quelque chose cette nuit, quelque chose de terrible. Nos maris ne reviendront pas. On est toutes seules. Ils ont volé beaucoup d'argent. Et des gens nous le réclament. Notre meilleur avantage, c'est d'être qui nous sommes.
Pourquoi ?
Parce que personne ne s'imagine qu'on va avoir les couilles d'aller jusqu'au bout.
Qui sommes-nous quand ce monde nous force à nous mettre à genoux ?
Si ça tourne mal, je veux que mes enfants sachent que je me suis pas laissé faire. J'ai agi.
Dans cette ville, on récolte ce qu'on sème.
Espérons-le.
Les Veuves, c'est le nouveau film de Steve McQueen, le réalisateur à qui l'on devait 12 Years a Slave, entre autres. L'idée de scénario est plutôt bonne au départ. Quatre femmes se retrouvent veuves alors que leur mari meurt lors d'un braquage qui a mal tourné. Donc c'était quatre gangsters, des grands gangsters qui faisaient de gros casses et qui doivent de l'argent à la mafia. Donc les femmes vont être retrouvées par la mafia qui leur réclame cet argent volé à la place de leur mari. Ces femmes sont toutes des stéréotypes. On a une noire, une pute ukrainienne, enfin j'exagère un petit peu, mais une latino. Et la quatrième, on la voit assez peu en fait. La quatrième, c'est une américaine, on va dire normale, blanche, qui ne va pas s'allier avec les trois autres pour reprendre le flambeau de leur mari. Les trois autres, elles, en revanche, vont reprendre les plans d'un casse, plan qui avait été constitué par le mari de Viola Davis, l'actrice noire, mari incarné, lui, par Liam Neeson, que l'on voit aussi dans le film dans des flashbacks. C'est donc à la fois un film de braquage, mais au féminin, et ça je trouve que c'est bien vu. C'est aussi un film sur la mafia, c'est aussi un film sur les différentes classes sociales qu'on trouve aujourd'hui aux États-Unis, avec un fond politique, puisqu'on suit la campagne d'un homme politique qui veut devenir maire et qui est prêt à tout, y compris à s'allier avec la mafia pour faire financer sa campagne. Alors c'est peut-être mon petit bémol sur le film, c'est qu'à force de traiter tous ces sujets, de lancer toutes ces pistes, on s'y perd un petit peu et ça ternit un petit peu l'intrigue centrée sur le braquage qui du coup est moins dynamique, moins intéressante que ce qu'on aurait pu attendre dans un tel film. Voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Jean-Pierre.
Oui, oui, on passe un très bon moment. C'est un film effectivement très classique par son sujet, qu'on a vu 10 fois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est centré sur Chicago, ville effectivement très violente. Il paraît qu'il y a 32 meurtres par jour et que le braquage est monté en parallèle, effectivement, avec la politique, avec cette élection d'un candidat qui voudrait ressembler un peu à Kennedy, mais qui ne l'est pas tout à fait, et qui a des accointances avec la mafia. En plus, il y a une surprise monumentale au milieu du film que je ne dévoilerai pas. Donc, c'est un film qui ressemble effectivement à Steve McQueen, dont les premières œuvres sont très politiques. Là, il a voulu un peu plus rentrer dans un genre de cinéma américain, encore une fois très classique, hein, histoire de braquage, mais c'est une histoire de braquage de femmes, avec effectivement des personnages très, très bien dessinés, hein, dont la noire qui est jouée par Viola Davis. Et puis l'ukrainienne aussi qui est très bien. Donc c'est un film qui se voit, moi, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas de réticence, sauf que effectivement l'arrière-fond politique est peut-être, alors contrairement à toi, je dirais qu'il est un peu trop sacrifié par rapport au braquage lui-même et à tout ce qui précède. Mais c'est incontestablement un très bon film américain à voir.
Oui, voilà. Bon, après, c'est vrai que quand il y a plusieurs pistes, bah, forcément, chacune ne peut pas être creusée autant qu'elle pourrait l'être.
Comme dirait Adrien, il aurait fallu qu'il dure 2 fois plus longtemps.
Oui, voilà. Un film de 3 heures au lieu de 2 heures aurait peut-être permis de bien développer chaque piste. En tout cas, c'est Les Veuves de Steve McQueen que vous pouvez voir au Pathé ou au club. On va changer de genre maintenant avec une femme qui n'est pas veuve mais qui préférerait peut-être l'être. C'est l'héroïne de La Permission de Soheil Beraghi.
Mommy Bali! Mommy Tuli! Mommy Ali!
Ali!
Elon! 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 Elon!
تیم فوتسال بانوان ایران برای اولین بار رسیده به فینال بازی‌های آسیایی. من کاپیتانشونم.
یاسر شاهسنی، درسته اسم همسرتی؟
بله.
ممنوع الخروج کردن شما رو.
مرد میتونه زن رو بدون هیچ دلیلی ممنوع الخروج بکنه. اینو دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، قانونی.
به بوزه بذار کنار این فوتبالو، بسته دیگه هرچی بازی کرد.
من اون تیم و تیم کردم. من از روز زندگیم رد شدم که اون تیم بره بالا.
بابا درواز نمیکنم. آقای شاهسنی گفتن درواز نکن. اگه شما ما درواز نکن، من درواز نمیکنم. دست من نیست.
بهم گفتن صداشو در نیار ما حلش میکنیم، ولی هیچ کس هیچ کاری نکرد، نه فدراسیون، نه تیم، نه دوستان. آشان
La Permission, film iranien de Soheil Beraghi, s'inspire d'un fait réel. Une capitaine de l'équipe de foot féminine, enfin l'équipe de futsal plus exactement, féminine iranienne, a été interdite de voyage par son mari et n'a pas pu se rendre en finale de la Coupe d'Asie des Nations. Alors je ne sais plus si l'histoire exacte c'est ça, si c'est vraiment ce sport-là et cette coupe-là en question. En tout cas, peu importe, le film s'inspire de cette histoire et nous montre à Frouz, donc, qui en plus est la star de l'équipe, la buteuse de l'équipe, qui n'a pas le droit de sortir de l'Iran à cause de l'interdiction de son mari. Tout ça pourquoi ? On l'apprend assez rapidement dans le film, parce que ça fait 1 an qu'ils vivent séparés, ça ne va pas bien entre eux. Son mari lui paye un appartement, c'est un homme très occidentalisé, bien vu dans la société, c'est un présentateur d'émissions de télévision, sauf que du point de vue de son comportement de mari, il est vraiment bien ancré dans ce système patriarcal iranien, très, très machiste, très autoritaire et tyrannique, et qu'il profite donc de son pouvoir sur sa femme, femme qui s'est éloignée de lui depuis 1 an et qu'il aimerait récupérer comme ça par le chantage. Évidemment, ça ne marche pas du tout. L'héroïne est une femme entêtée, féministe, fière, qui essaye par tous les moyens d'avoir gain de cause et d'obtenir cette autorisation de sortie du territoire. Ce sera évidemment... je pense qu'on peut le dire, hein, une partie perdue d'avance, hein, puisque la loi est contre elle en Iran. Donc c'est un film très intéressant pour ça, pour le sujet, pour évidemment encore une fois dénoncer les droits de la femme qui sont bafoués en Iran encore aujourd'hui. Voilà. Après, ma petite réserve sur ce film, c'est que pour moi, il manque un petit peu d'émotion. J'ai vu le sujet, je m'attendais à peut-être que ce soit plus fort, à être plus emporté par ce qui arrive à l'héroïne. Mais je trouve que ça reste très intéressant quand même. Jean-Pierre.
Absolument, tu as tout dit, j'ai plus rien à dire. Non, mais c'est
alors,
vrai, c'est
film
le...
suivant.
Non, c'est le genre de film qui vient d'Iran et qu'on accueille toujours et qu'on regarde toujours avec plaisir, parce que même si le côté cinématographique est parfois un peu terne,
voilà.
Ça vous dévoile tout ce qu'est la société iranienne et l'oppression des femmes, et là qui est très très bien vue. Et le point le plus fort du film, tu l'as souligné, c'est que le mari est un homme très très occidentalisé, il pourrait être français ou américain, et pour un spectateur normal, je veux dire occidental ou français, on comprend pas du tout pourquoi il maintient sa femme sous la loi du talion, comme ça, sous un talon de fer, et c'est ce qui le rend d'autant plus odieux, quoi. Donc voilà, c'est un film tout simple. Moi, je trouve pas que cinématographiquement il soit contestable. C'est un film presque documentaire, puisqu'effectivement il vient d'une histoire vraie. Je crois que c'est tout à fait exact, même si peut-être certaines choses ont changé. Mais si on veut savoir encore un peu plus sur l'Iran, il y a beaucoup de films iraniens qui sortent, il faut en manquer aucun, et celui-là en fait partie.
Eh bien voilà, nous avons tout dit, nous vous le recommandons, c'est La Permission de Sohaib Beraghi, qui passe encore au cinéma Le Club. Autre film, autre sujet, autre pays, nous allons évoquer maintenant Pupille, le film français de Jeanne Herry.
Moi, ça m'a pris un peu de temps avant de pouvoir l'envisager.
D'accord.
Enfin, d'accepter que j'aurai jamais d'enfant à moi. C'est peut-être pas la peine de le mettre dans votre rapport.
Un bon candidat à l'adoption, c'est pas quelqu'un qui a rien vécu de douloureux. Dans la vie, on a tous des champs de mine et des champs de fleurs. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez réussi à déminer votre champ.
C'est un petit garçon. Vous voulez le voir ?
Bonjour, je suis assistante sociale.
Je veux pas le garder.
Je vous appelle parce qu'on va sûrement avoir un petit pupille à accueillir. Probablement demain. Vous seriez dispo ?
On m'a proposé de faire un accueil aujourd'hui. Je dis non, parce que je crois que j'ai envie d'arrêter.
Il y a quel âge ?
Il y a un jour.
La vache.
Bonjour Théo, je m'appelle Karine. Je suis éducatrice spécialisée. Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. Mais elle nous a chargés de veiller sur toi. Et nous, on est là pour ça. Pour toi.
Faut continuer à bien boire, tu sais, hein, pour prendre du poids.
Le conseil de famille a donné ses directives pour trouver des parents à ce petit Théo.
Alice Langlois. Sa première demande d'agrément date d'il y a 8 ans. Elle est prête, cette femme. C'est bon moment pour elle, je le sais.
Je me sens carrément prête.
Tu grimpes.
Mon travail, c'est pas de trouver un enfant à des parents qui souffrent. Mon travail, c'est de trouver les meilleurs parents possibles à des enfants en difficulté.
T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es un super mec.
Pupille, deuxième film de Jeanne Herry. Alors pour la petite anecdote, Jeanne Herry, c'est la fille de Julien Clerc et de Miu Miu. Elle avait fait tourner son père dans son premier film. Elle l'adore, avec Sandrine Kiberlin. C'était sur une fan d'un chanteur qui était prête à tout pour lui, pour le protéger. Et là, cette fois, elle fait tourner sa mère, Miu Miu, qui joue l'une des assistantes sociales, qui intervient dans ce processus d'adoption. Puisque Pupille, c'est un film sur l'adoption, sur tout le processus. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, qui est très complet. On suit vraiment ce bébé de l'accouchement sous X de la mère, jusqu'à sa remise aux institutions, les assistants sociaux, les membres des administrations, les familles d'accueil. Ici, en l'occurrence, c'est Gilles Lelouch qui joue le père de la famille d'accueil. Sandrine Kiberlin, elle joue une assistante sociale. Élodie Bouchèze, une mère qui veut adopter. Et on suit ce bébé vraiment dans toutes les étapes, ainsi que certains parents qu'on suit aussi dans toutes les étapes, ce parcours du combattant qu'ils vont connaître avant de pouvoir adopter. On voit les discussions entre les assistants sociaux pour décider de quel enfant on remet à quelle famille. On voit la complexité de la chose, sans que le film soit fait pour vous tirer des larmes, même si, bien évidemment, quand vous voyez un petit bébé qui se fait abandonner à la naissance, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être ému. Mais j'ai trouvé que c'était fait de manière assez juste. juste sans en rajouter. Moi, ce film, je l'ai carrément mis dans mon top 10. Hein, je vous l'annonce, j'en dévoile une partie. Il m'a à la fois beaucoup intéressée, beaucoup émue. J'ai trouvé que c'était bien documenté, vraiment juste. Et je le recommande vivement. Florence.
Moi aussi, hein, il m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé intéressant, en effet, de voir le processus en entier, que ce soit, en effet, le côté aussi, même du point de vue du bébé, parce que ça, c'est le côté qu'on ne voit jamais d'habitude.
Oui.
Donc là, voir que même un nouveau-né puisse avoir, ressentir comme ça le traumatisme de l'abandon, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et aussi le côté de la mère qui abandonne, du coup, voir un peu comment ça se passe pour elle. C'est vrai que ça, c'était complètement nouveau pour moi.
Oui, pour moi aussi.
Voilà, et puis j'ai trouvé que le timing était très bon, qu'il n'y a pas de longueur en fait, toutes les scènes sont justement pesées, tout est très bien monté, très bien enchaîné, c'est vraiment un très bon film,
et
tout sonne juste.
Avec, oui, tout sonne juste, et les interprètes aussi, c'est vrai que je les ai mentionnés,
très
mais
humain,
ils sont tous vraiment excellents. Alors tout le monde salue la performance de Gilles Lellouche parce qu'on le montre dans un rôle sensible, alors qu'il a souvent joué, on va dire, les gros beaufs français, ou qu'il a souvent été dans des films plus comiques. Mais ça fait déjà plusieurs films quand même qu'on le voit dans ce registre-là. Hein. Je pense à Plongée, le film de Mélanie Laurent.
Oui.
Il joue un homme en quête de sa femme qui l'abandonnait avec leur bébé, justement. Donc vraiment, pour les interprètes aussi, on recommande toutes les deux. Pupille de Jeanne Herry, vous pouvez le voir au Pathé et à la Nef. On change de genre maintenant avec un thriller, on va dire. C'est Assassination Nation de Sam Levinson.
Je m'appelle Lily Carson et j'ai 18 ans. Voici mes trois meilleures amies. Em, Bex et Sarah. Et je vais vous raconter comment ma ville, Salem, a perdu la tête.
Écoutez tout le monde!
Mais commençons par le début. Hey, le directeur s'est fait hacker.
Je lui donne à peu près 5 jours avant de se suicider.
Désolé, j'ai pas trop de sympathie pour les gens qui se font hacker.
Sérieux?
Il y a deux genres de personnes dans le monde. Celles qui ont accepté que la vie privée soit un concept dépassé. Et les vieux qui essaient encore de résister.
Qu'est-ce que t'as à cacher, de toute façon?
Un million de photos nues, de la porno vraiment intense et des textos extra pervers à propos de presque tout le monde de l'école.
Moi aussi.
On est trois.
Je crois que c'est une personne avec une conscience sociale. C'est un hacker éthique.
Vous savez, je vis pour ce genre de scandale.
On dirait que la moitié de Salem s'est fait pirater.
Et personne ne peut rien faire pour effacer ces vidéos.
Malheureusement, monsieur, c'est très difficile d'arrêter Internet.
Quand les messages personnels de 17 000 personnes sont diffusés publiquement, les gens deviennent vraiment bizarres.
Cours, Lily !
Assassination Nation de Sam Levinson s'intéresse, comme vous l'avez entendu, au sujet du piratage web. On est à Salem, donc évidemment ce n'est pas anodin, hein, la ville des sorcières de Salem. Cette fois, le lynchage ne se fait pas en réalité, mais se fait de manière virtuelle sur Internet, où sont dévoilées plein d'informations personnelles qui se retrouvent donc publiques. Alors, je n'ai pas vu le film, qui me fait un peu penser à des films sortis dernièrement. J'ai l'impression que c'est assez déjà vu. Florence et Jean-Pierre nous le diront. Qui commence ? Florence ?
Allez. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'idée du scénario. Je trouvais ça très intéressant de voir un peu dans le contexte actuel où on est de plus en plus connecté. Il y avait vraiment un bon potentiel dans le scénario et je trouve que la réalisation a été catastrophique. Pour moi, c'est vraiment un teen movie de base où ils font passer les adolescents pour des êtres complètement esservelés, stupides, sans aucune réflexion.
Ils le sont.
Et puis, personne n'est là pour rattraper quoi que ce soit. Les adultes sont tout aussi minables que les adolescents. Ils sont tous... Voilà, c'est un ramassis de crétins. Et le seul avantage, peut-être, c'est de voir des tas de petites fesses qui dépassent des shorts tout au long du film en gros plan. À part ça, vraiment, moi, et ça m'a fait lever les yeux au ciel plusieurs fois pendant le film.
Évidemment, j'imagine.
Oui. Ah, vraiment, il m'a atterré, ce film. Moi, je n'ai même pas aimé du tout.
Tu l'as mis dans ton flop de l'année ?
Oui.
Ah ben alors, Jean-Pierre.
Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film, c'est la version geek, la version trash des veuves, parce qu'effectivement c'est trois filles qui vont se venger férocement de tout ce que les vilains messieurs leur font faire. Alors c'est un film qui explore le côté le plus noir de l'Amérique, effectivement des ados décervelés qui passent leur journée sur Internet en s'envoyant des sextapes notamment, puisque c'est le terme qu'il faut. Jusqu'à se faire suicider le maire de la ville, et les autres, les beaufs, effectivement, les gros beaufs, veulent se venger de ces trois filles qui, à leur tour, se vengeront. Moi, je trouvais que c'est un film de très mauvais goût, c'est vrai, mais j'aime le mauvais goût. J'aime les films américains qui prennent le côté le plus noir de leur société à bras le corps, et je trouve que le film qui est sur la violence, sur la facilité de se procurer des armes aussi, et s'en servir, allié à Internet et au talon de fer que représente Internet sur des âmes un peu sensibles et naïves. Je trouvais que c'est très bien vu, c'est très bien fichu, c'est très bien monté. Moi, je dis pas que j'ai adoré, mais c'est le genre de film qui me réjouit.
Et ça ressemble pas à ce film qu'on avait vu dernièrement, Jean-Pierre, presque film d'horreur, sur une jeune fille qui était victime d'un harcèlement sur les réseaux sociaux.
C'est un sujet qui rappelle aussi Nightmare American, qui est une série de quatre films où pendant une seule nuit les gens ont le droit de se servir de leurs armes et tuer n'importe qui. C'est ce genre de film effectivement
pas
très novateur, mais je trouve que avec tout ce qui se passe aux États-Unis, il se passe pas une semaine sans qu'il y ait pas un massacre de masse dans un collège ou ailleurs. Je trouve que c'est bien que ce genre de film rappelle et revienne, même si c'est avec des gros sabots, sur ce phénomène terrible. Quoi. Et c'est pour ça que qu'il est très utile.
Un pour un contre, alors, pour Assassination Nation de Sam Levinson.
Je suis d'accord avec Jean-Pierre, néanmoins. Mais c'est vrai que le voir après...
Alors, si vous voulez le voir quand même, il passe
trop sensible.
À la nef. On enchaîne avec un film de guerre, Les confins du monde, de Guillaume Niclou.
Le deuil est une drôle d'épreuve. Un jour on croit en être sorti et puis non. Il est toujours là, incrusté avec sa colère.
Et mon frère aussi, ils lui ont coupé la tête.
D'une certaine façon, on est de la même famille. Des rescapés.
Tu diras à Bobine que mon nom c'est Robert Tassen et que je le lâcherai pas.
Sachez qu'il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Je parle de vous. De votre ennemi intérieur.
Occupez-vous du vôtre et oubliez-moi.
Putain, tu fais chier. Hein. C'est sûr que tu vas aller dans ce merdier.
Vous êtes là pour servir la France, pas pour régler vos comptes?
Je la sers, la France.
Moi, je suis libre. Reviens ce soir.
Ce soir, je peux pas. Demain, je serai peut-être plus là.
Je veux pas crever ici. Ça t'emmerde, ça, que j'ai pas envie de crever.
Je serai jamais comme tu veux. Pars, va-t'en.
L'amour, ça prend de la place.
Pas la bonne place.
Et vous voulez la mettre à quelle place, votre vengeance?
Les confins du monde, c'est le 16e film déjà de Guillaume Niclou, le réalisateur français. Le précédent, c'était Valley of Love avec Gérard Depardieu, qui avait perdu un fils et qui retournait sur ses traces. Et bien là, encore une fois, Gérard Depardieu, comme dans sa propre histoire d'ailleurs, a perdu un fils. Il joue un personnage d'écrivain. On est en Indochine en 1945. Et ce personnage, dont je ne vois pas bien l'utilité, je vous avouerai, va rencontrer le héros, Robert Tassen, incarné lui par Gaspard Ulliel, qui veut se venger d'un chef indochinois qui a massacré une partie de son bataillon et notamment son frère sous ses
Caroline,
yeux.
C'est les Japonais.
Excuse-moi.
Mais c'est pas
qu'est-ce
grave.
Qu'est-ce que je raconte j'ai dit quoi?
Tu as dit les Vietnamiens.
Ah, pardon. Et donc, Robert Tassen va poursuivre donc ce chef japonais qui s'appelle Vobin dans le film. C'est l'un des...
Non, mais je ne veux pas t'interrompre, tant pis. Vobin, c'est effectivement un Vietnamien qui a assisté au massacre par les Japonais sans intervenir. Voilà.
Alors, j'ai pas dormi pendant le film, mais merci un peu pour ces précisions,
ton
Jean-Pierre.
Ton esprit s'est un peu égaré quand
oui,
même.
Oui, je vous avouerai que je me suis beaucoup ennuyée, mais bon.
Oh là là
je vous l'annonce tout de suite. Donc, Robert Tassen recherche ce Vobin, on est d'accord, Jean-Pierre, qui est quand même responsable du meurtre de ses compagnons.
Il est responsable en ce sens qu'il n'est pas intervenu et que on va pas raconter toute l'historique du film, mais ce qui est, je t'interromps, mais c'est pour faire un point d'ordre. La plupart des films qu'on a vus sur la guerre d'Indochine se passent vers la fin du côté de Bien Bien Phu, donc la débâcle totale de l'armée française. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe en 45, alors que la guerre était même pas terminée avec le Japon, mais par contre, elle est terminée en Europe. Donc, l'armée française reprend pied en Indochine, où les Japonais sont en train de partir, mais à la faveur de cette situation un peu embrouillée, l'indépendantisme chez les Vietnamiens commence à prendre corps. Il y a effectivement des petits groupes qui commencent à se révolter contre l'armée française qui est là, à la faveur de, encore une fois, du départ des Japonais. Voilà. C'est peut-être un peu compliqué.
Ça, c'est ce qu'on voit
connaît
dans
pas
film.
L'histoire,
c'est
mais
ce qu'on
voilà.
Voit dans le film. Alors, comment est-ce qu'on comprend que c'est un Japonais qui a commis ces
Parce qu'ils le disent, ils le disent.
D'accord, ok, ouais, j'ai raté une réplique.
Ils le disent, c'est les Japonais avant de partir, ils se vengent effectivement parce qu'ils
D'accord.
sentent qu'ils vont perdre la guerre. Et là, c'est une embuscade, on ne sait pas trop. Effectivement, il y a tout un groupe de soldats français qui se sont fait massacrer.
D'accord, quoi. Merci Jean-Pierre pour ces précisions.
Et le Vietnamien qui observe et qui sera un futur chef du Vietnam, on suppose, il a regardé ce massacre parce qu'il est tout content que des soldats français se fassent massacrer, ce qui en fait des ennemis en moins à combattre. Voilà.
D'accord. Bon, vous voyez, j'avais même pas tout compris. Donc, en tout cas, ça, c'est le premier fil d'intrigue du film. C'est la vengeance de Robert Tassen qui recherche ce fameux Vobin. Deuxième fil d'intrigue, alors auquel moi, je n'ai pas cru une seconde, il rencontre une jeune prostituée indochinoise, on est d'accord, Jean-Pierre?
Absolument.
Mike, mais... il la voit deux fois, il en tombe éperdument amoureux.
Et bon, pourquoi pas?
Ok, pourquoi pas.
Ah.
Il la violente, il est hyper jaloux, mais il voudrait qu'elle soit amoureuse de lui. Bon. Pourquoi pas? Au final, on se demande même si elle n'est pas tombée amoureuse de lui. Alors franchement, à moins qu'elle soit sadomaso, là, je comprends vraiment pas ce qui l'a attirée chez le personnage. Je comprends pas non plus vraiment bien la relation entre cet homme et le personnage de Gérard Depardieu, qui est un écrivain. Alors, on se demande ce qu'il vient faire là. Ok, il a perdu un fils dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, mais... Qu'est-ce qu'il vient faire en Indochine? Pourquoi il rencontre Robert Tassen? Cette relation, elle est aussi très épisodique. Il y a deux, trois scènes comme ça dans le film. Moi, je me suis quand même pas mal ennuyée pendant. J'arrivais pas vraiment à dire si je n'aimais ou si je n'aimais pas. Puis plus je repense à ce film et moins je l'aime. Plus je le trouve décousu et plus je trouve que par sa comparaison avec Apocalypse Now, il est vraiment une pâle copie donc de cette quête et de cette vengeance là dans la jungle qui est vraiment magnifique dans Apocalypse Now et qui n'arrive pas à la cheville ici. Alors je vous passe aussi sous silence le personnage de Guillaume Gouy dont on comprend dès la première scène quel est le secret que je ne révélerai pas et je laisse la parole à Florence.
Moi je suis un peu moins négative que toi quand même, même si c'est pas un film que j'ai vraiment apprécié. Après je pense aussi que ça vient du fait du héros, donc Robert Tassen, qui est complètement perdu dans sa vie et du coup comme il est perdu, nous on le suit et on est un peu perdu aussi parce que c'est un peu décousu son parcours, j'ai trouvé. Je pense que Gérard Depardieu, il est là justement pour essayer d'indiquer le chemin ou de l'aider à prendre conscience un peu de son cheminement, ouais, et de ce qui s'est passé. Mais voilà, après, j'ai trouvé ça quand même très lent aussi. Je me suis quand même pas mal ennuyée. Après, moi, j'avais une appréhension avant de le voir parce qu'ils mettent plein de warnings sur le « attention, très, très violent ». Bon, on voit des violences, mais qui ont déjà été faites, donc c'est... Enfin voilà, on voit pas du gore, mais c'est déjà fait, donc voilà, on voit du latex,
c'est
voilà.
Vrai.
Donc c'est un peu moins affreux que ce que j'anticipais, qui me faisait un peu peur à voir. Mais ouais, bon après, ouais, je me suis plutôt ennuyée, même si, en effet, la partie était intéressante, parce qu'on connaissait pas du tout cette partie de l'histoire, enfin moi en tout cas.
Qu'on a d'ailleurs bien comprise grâce au film. pour ma part en tout cas.
Mais voilà, ouais, non, néanmoins, c'est quand même pas un film que je conseille.
Jean-Pierre.
Non, moi j'ai trouvé que c'est très très bien, justement, parce que c'est un peu le double d'Apocalypse Now, mais du côté intimiste, et on sent quand même l'influence de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, et peut-être justement que le personnage de Depardieu, qui, je suis bien d'accord avec vous, est tout à fait inutile, voudrait être un espèce de Joseph Conrad, qui est là pour raconter, effectivement, une histoire assez embrouillée, il n'y a qu'à vous écouter pour le comprendre. Mais je trouvais que c'était très bien filmé, que l'ambiance de cette jungle moite, où parfois s'il fait très chaud, parfois il pleut, de manière récurrente, est très bien rendue. L'histoire de cet amour, ou en tout cas ce rapport avec la jeune prostituée, c'est un grand classique du cinéma de guerre, mais c'est un grand classique de la guerre de toute façon, parce que les soldats et les soldats perdus n'avaient que des prostituées pour vivre une histoire d'amour, ou en tout cas une histoire sexuelle. Et moi, j'ai trouvé que rien n'était forcé, rien n'était surtout pas ennuyeux. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire d'errance qui se termine, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, parce que l'histoire du soldat perdu, c'est un grand classique du film de guerre, mais de la guerre en général. Et là, ce film rend bien compte de cette espèce de désagrégation de ce qui était l'Indochine française et qui effectivement va arriver sur la vraie guerre d'Indochine et puis l'indépendance. Donc moi, je le conseille fortement.
Et moi, je conseille plutôt de revoir Apocalypse Now
oui,
pour l'atmosphère.
L'un n'empêche pas l'autre.
Et même Indochine de Régis Varnier pour plus de précision historique. En tout cas, si vous voulez voir quand même Les confins du monde de Guillaume Niclou, vous pouvez aller au cinéma Le Club. On enchaîne avec un film musical. Il s'agit de L'étau de Kirill Serebrennikov.
Я и жарен как котлета.
Виктор, очень приятно. Советский композитор.
Ребят, советский рок-музыкант должен занимать активную социальную позицию.
Мотор! Будущее за теми, кому все пофиг.
Ты поешь вражеские песни.
Секс-пистолет.
А ты поешь песни нашего идеологического противника.
Этот ведь, который бездельник, сказал, что за новой волной будущее.
Безденег теперь влияет на твои музыкальные предпочтения?
Вы все время хотите с моими песнями что-то сделать. Может, попробуем их просто спеть?
Хочу поцеловать Витю.
А от меня-то что нужно? Благословение.
Витю надо записывать, пока не поздно.
А что с ним может случиться?
Да все что угодно. Армия, семья, дети, алкоголизм. Что может произойти с человеком у нас в стране?
Léto, ça veut dire l'été, si j'ai bien compris, en russe. Et c'est donc le titre de ce film franco-russe de Kirill Serebrennikov. On est à Leningrad au début des années 80, et là émerge une nouvelle scène rock, à un moment où les disques de l'Ouest, hein, Lou Reed, Bowie, sont encore interdits. On suit en particulier l'histoire de deux chanteurs donc, qui ont existé, hein, Victor Tsoï, qui a été le cofondateur du groupe Kino, et puis Mike Naumenko, qui... lui a été le leader du groupe de rock Zoopark, donc un film dans un très beau noir et blanc qui reconstitue cette époque et qui nous parle de cette scène rock qu'Adrien a vue et sur lequel on va tout de suite écouter son avis.
Alors, pour Leto, je ne pense pas être la personne la plus compétente pour parler de ce film, parce que pour moi, j'y connais rien en musique, je ne connais pas absolument pas David Bowie. La seule fois que j'ai entendu parler de T-Rex, c'est en lisant le manga du Urasawa 20th Century Boys, donc j'avais l'impression d'être dans une soirée, en fait, où je regardais des gens jouer de la guitare et que je m'emmerdais devant ce film. Alors, bien sûr, c'est hyper dur de casser le film de quelqu'un qui est assigné à résidence, qui a monté le film chez lui et tout ça, mais n'empêche que même si dans son film, dans la forme, je trouve ça assez exceptionnel, le premier plan, je trouve ça génial, le personnage du gardien de la salle de concert qui ferme le cadenas quand les personnages n'y reviendront plus, je l'ai trouvé aussi exceptionnel et bienveillant. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du film et je pense que j'aimerais la musique, j'aurais adoré ce film, j'ai adoré les personnages qui se mettaient à à chanter dans le film et le personnage messager qui nous dit tout cela n'a pas existé. J'ai adoré la scène du train, j'ai adoré le côté fanzine du film. Néanmoins, c'est pas parce que j'ai adoré la forme plastique que le rythme du film m'a plu et je me suis ennuyé comme un rat mort. Le triangle amoureux à la Juliet Jim, je trouve que ça ne marche pas. Bref, j'ai trouvé le film plastiquement très beau dans la forme, mais dans le fond, je l'ai trouvé vain et plat. Et pourtant, j'avais adoré le film précédent du réalisateur, Le Disciple. J'ai eu la chance aussi de voir une de ses mises en scène, Les Idiots, au Festival d'Avignon, mais qui m'avait beaucoup plu. Là, je suis resté sur le côté, malheureusement. Peut-être que j'en attendais trop. Voilà.
Eh bien, je suis un peu d'accord avec Adrien sur le trio amoureux. C'est du déjà vu, pas inintéressant, mais déjà vu. Moi, c'est la musique surtout qui m'a beaucoup plu et qui m'a suffi, en fait. Hein. Je me suis vraiment laissée plonger dans ce film comme dans un grand clip. N'y allez pas si vous voulez voir un biopic très documenté, avec des dates, avec des faits précis, avec l'historique précis donc de la vie de ces différents chanteurs. C'est un film qui peut sembler un peu décousu, mais qui vaut surtout pour les rencontres, l'émulation musicale qu'il y a entre les personnages. Et puis pour l'esthétique aussi, Adrien avait l'air d'être d'accord avec moi sur ce superbe noir et blanc et sur le format de tournage. Florence.
Alors moi j'ai adoré, ça a été mon coup de cœur du mois. J'ai vraiment été transportée par ce film. Alors la bande-son elle est vraiment au top avec The Passenger des Biggie Pop. On a Psycho Killer des Talking Heads. On a Perfect Day de Lou Reed. Et c'est des moments vraiment magiques dans le film. La façon dont c'est intégré, c'est parfaitement intégré dans le film en fait. Les moments où ça bascule en chanson. Et après, il rajoute des tas d'effets sur la pellicule où là, le noir et blanc est vraiment justifié parce que ça donne un côté super graphique. Et en effet, il y a cette dimension un peu surréaliste avec ce bonhomme et ses panneaux, tout ceci n'a pas existé, qui débarque. Moi, j'ai vraiment adoré. Et pour revenir moi, sur le trio, j'ai trouvé qu'au contraire, il fonctionnait bien parce qu'il ne faut pas le voir comme une histoire classique. Là, il s'agit d'une groupie. On a une véritable groupie. Et elle a épousé l'homme dont elle était complètement fan. Et là, il y a l'émergence d'une nouvelle star. Donc, elle est attirée par la nouvelle star. C'est une groupie. Donc, ça se tient complètement. Enfin, je trouvais que c'était complètement justifié, que tout rentrait dans le moule. Il y a une espèce de vent de liberté qui se dégage de ce film, qui transporte. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé vraiment que c'était vraiment super.
Tu en parles vraiment avec enthousiasme et je pense que Jean-Pierre est convaincu.
Absolument,
et il est en train de se noter d'aller voir.
Je commence à le regretter maintenant.
L'étho de Kirill Sebrenikov, tu ne l'as pas manqué, il passe encore au cinéma
bien,
Le Club.
Ben j'irai.
On change de genre avec la science-fiction. Voyons, vous avez fait un programme éclectique encore ce mois-ci. C'est Mortal Engines de Christian Rivers.
Qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est Londres.
Une heure, c'est tout ce qu'il a fallu pour conduire l'humanité au bord de l'extinction. Les peuples se sont relevés. Une nouvelle ère est née. Celle des cités prédatrices. La loi du plus rapide.
Attention! Valentine. Ça, c'est pour ma mère.
Arrêtez-la! Tom!
Demande-lui pourquoi il a tué ma mère.
Non!
Dommage que tu aies entendu ça. Esther Shaw, elle fera tout ce qu'elle peut pour me tuer.
Sauf si vous la tuez avant.
Retrouvez-les!
Venez!
Ça faisait longtemps que je te cherchais. Ta mère avait fait une découverte dangereuse. Elle avait peur de Valentine, de ce qu'il en ferait.
L'homme qui contrôle ceci, contrôle le monde.
Elle m'a dit que tu pouvais l'arrêter.
Cette arme est capable d'anéantir la plus grande cité en un clin d'œil.
Il faut la neutraliser.
Mortal Engines de Christian Rivers, c'est l'adaptation du roman de Philippe Rive, Mécanique Fatale, publié en 2001. Roman que je n'ai pas lu. En tout cas, la très bonne idée du roman et du film, c'est dans cet univers post-apocalyptique, des cités qui se déplacent sur des sortes de rails. Donc vous avez notamment la ville de Londres, hein, qui est la ville où se trouvent les principaux protagonistes, qui est mobile et les villes vont ainsi à la recherche de ressources, aspirant parfois d'autres villes sur leur passage pour leur voler leurs ressources, leurs matières premières notamment. Donc ça, c'est une très bonne idée. C'est très beau. Les décors du film sont vraiment superbes. Après, pour ce qui est vraiment du scénario, ben, je trouve qu'au final, quand on résume, ça se limite à l'histoire d'un méchant qui veut prendre le pouvoir et de deux gentils rebelles dont les parents ont été massacrés par le méchant et qui veulent se venger, qui veulent l'empêcher d'accéder au pouvoir et de tyranniser tout le monde. Donc ça va paraître un petit peu simpliste si je vous résume ça comme ça, mais voilà, comme souvent dans la science-fiction, je trouve qu'il y a une très bonne idée de départ et qu'au final, le traitement fait du film un simple film d'action avec de beaux décors. Jean-Pierre.
Absolument, oui, mais c'est vrai que c'est un film un peu pour ados, on peut dire, retardé ou pas, mais ce qui frappe, c'est effectivement les décors magnifiques, notamment ce Londres qui a été reconstruit, qui est une espèce de cathédrale d'acier qui fait 600 mètres de haut, couronnée par une reconstruction de la cathédrale Saint-Paul et qui erre sur la terre. Alors, désolé de te contredire encore une fois, mais il circule pas sur des rails, il a des chenilles qui peuvent lui permettre d'aller n'importe où.
Oui,
c'est une des parties esthétiques intéressantes, c'est que quand on voit des plans très larges, on voit là une immense plaine qui est striée justement des traces des chenilles de ces villes qui se déplacent et qui sont larges comme des canaux. Et alors effectivement, le sujet est basique. Le méchant, moi je le trouve pas tout à fait méchant, mais il faut dire que c'est Hugo Weaving qui est un acteur formidable, qui était l'agent Smith dans Matrix. Il veut simplement faire survivre sa cité dans un monde où effectivement les ressources s'amenuisent jusqu'à n'être plus trouvables nulle part. L'histoire des deux jeunes, bon, effectivement, c'est classique, mais l'actrice qui joue la jeune fille, qui a le visage complètement balafré, c'est intéressant par le fait que c'est pas une beauté lisse, comme on peut en voir dans beaucoup de films d'action. Il y a quelque chose qui le lie au méchant Valentine, que je dirais pas. Il y a un autre personnage qui est un espèce de à la fois de zombie, de golem, de robot qui est un tracker, qui la poursuit. Shrike, pour eux, encore une autre raison que je dirais pas non plus.
C'est pas très intéressant.
Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça me rappelle le personnage de Boris Karloff dans les tout premiers Frankenstein en noir et blanc des années 30, et avec le fait qu'il est, c'est un méchant mais qui peut avoir des sentiments aussi. Donc c'est un film assez global qui reflète tout ce que la science-fiction peut refléter, effectivement, qu'on a déjà vu, mais la science-fiction, c'est une espèce de perpétuel recommencement. Et ce qu'on va y chercher, c'est souvent effectivement les décors, les détails ou les inventions de détails. Et là, je crois qu'on en a plein la vue. On peut aussi parler des engins aériens qui sont magnifiques, notamment une espèce de jonque volante avec des ailes écarlates, là montée par une Asiatique. Bref, on en a plein la vue, on en a pour son argent. Moi, je suis content.
Bon, Florence a l'air d'opiner du chef.
Oui, moi je l'ai trouvé vraiment sublime. C'est absolument magnifique, les décors. J'ai adoré aussi donc cet univers steampunk où on voit ces villes un peu, enfin comment dire, tout terrain, mais qui ressemblent un peu à des animaux aussi. On assiste à une traque au début et on arrive à avoir de l'empathie pour le petit village qui se fait pourchasser par Londres. Et je trouve ça quand même fou de réussir à faire ça avec des machines, quoi. Et c'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment superbe.
Il y a beaucoup de numérique, hein, je crois.
J'imagine, sinon
ils l'ont pas reconstruit en dur, c'est sûr.
Ils auraient pu le faire en miniature et
non, et puis c'est de l'animation.
Il y a cette ville nuage aussi où ça ressemble à un espèce de gros nuage tout gonflé, et là il y a tous ceux qui vivent dans le ciel parce que le sol est devenu complètement impraticable, ceux qui vivent dans le ciel qui sont là à s'agglutiner sur cette espèce de nuage dans le ciel, enfin c'est vraiment
incroyable. C'est un assemblage de ballons en fait,
voilà.
Qui s'embrase à la, bon, il faut peut-être pas le dire, mais je le dis quand même, mais bon, il y a tellement...
Bon, sans doute, c'est tellement beau, on se dit ça pourra pas durer.
Voilà.
dans ce genre de film, malheureusement. Mais ouais. Bon, après, voilà, en effet, la petite histoire de romance derrière est complètement classique, mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas pesante non plus. J'ai trouvé que les héros n'en faisaient pas des caisses avec des répliques badass comme on a d'habitude. J'ai trouvé qu'ils jouaient plutôt bien, les deux. Là, les deux jeunes étaient très bons.
Et voilà, Hera Elmar et Robert Sian.
Voilà, cool. Lui, on avait vu dans Misfit d'ailleurs, qui était très bon aussi. Donc.
Bon, mais écoutez, il ne vous reste plus qu'à aller le voir, Mortal Engines de Christian Rivers, au pâté ou au Cyrex. On revient à des films plus réalistes pour cette fin de programme, avec notamment la dernière Palme d'Or, une affaire de famille de Hirosaku Koreeda. Une affaire de famille, donc film du réalisateur japonais Koreeda qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes 2018. Koreeda s'intéresse souvent à la famille, on l'avait vu dans Tel père, tel fils, qui était une histoire un peu comme dans La vie est un long fleuve tranquille. La vie est un long fleuve tranquille, donc d'échanges d'enfants avec des parents qui voulaient récupérer leurs enfants quelques années plus tard. J'avais trouvé ça glacial, pas du tout traité comme le film français sur le même sujet. Là encore, on est dans un film donc qui parle d'une famille recomposée, on va dire. De ce qu'on comprend au départ, il y a le père, la mère, le fils, la grand-mère et puis une jeune fille qui semble être peut-être la sœur de la mère. Famille plutôt pauvre et qui va recueillir, c'est le point de départ de l'histoire, une petite fille maltraitée par ses parents. Donc au départ, on a l'impression que c'est juste ça, et le film est assez lent, on suit leur quotidien, le travail des deux parents qui rapportent assez peu d'argent, leur petite combine, les vols, entre autres, commis par le père et son fils. Et puis plus ça va, plus le film gagne en intérêt, parce qu'on comprend petit à petit que ce n'est pas la famille qu'on imaginait, qu'ils n'ont pas les rapports entre eux qu'on avait pu imaginer au début. Et on se rend compte que c'est finalement un petit groupe de laissés pour compte qui s'est retrouvé. C'est une sorte de grande famille d'adoption. C'est très touchant. J'ai trouvé que vraiment les interprètes étaient convaincants et qu'on s'attachait aux différents membres de cette famille. Donc voilà, moi c'est un film qui m'a beaucoup plu, auquel je n'aurais peut-être pas donné la Palme d'Or. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans mon top 10 de l'année. Florence.
Moi, je l'ai mis dans mon top 10.
Ah.
Je l'ai trouvé vraiment très bon. Il m'a beaucoup touchée. J'aime bien ces films comme ça en tranche de vie où on suit le quotidien de personnes voilà, avec des vies plus ou moins, enfin, tous différents en fait. Et on voit ces gens qui ont rien mais qui sont quand même heureux. On voit comment ils arrivent à construire leur propre bonheur en définissant eux-mêmes ce que c'est qu'une famille. Enfin, ça fait se questionner sur un peu tout ça et j'ai trouvé que c'était. C'était très intéressant, très bien fait. Les acteurs, en effet, je les ai trouvés vraiment très bons. Même les enfants, parce que souvent, ils ne sont pas toujours au top, on va dire. Et pour moi, c'était vraiment un très bon film. Je n'ai pas trouvé qu'il y ait de longueur, parce que c'était justifié pour montrer aussi l'attente, les enfants qui sont, par exemple, dans la rue et qui ne vont pas à l'école, ce genre de choses. Donc forcément, il faut qu'ils s'occupent aussi. Enfin, ça montrait un peu tout ça. Enfin, c'était.
Oui. Le gouvernement japonais n'a pas salué cette Palme d'Or.
C'est étonnant.
Parce que le film, évidemment, critique, hein, c'est sous-jacent dans l'intrigue, mais critique les inégalités sociales au Japon et justement le fait que les gens en arrivent à voler ou à mettre en place de petites combines comme ça pour survivre. Bon. En tout cas, on vous le conseille. C'est Une affaire de famille de Koreeda que vous pouvez voir au pâté. Il y a uniquement des séances en VO, c'est très bien. Ou au Méliès. On finit avec le dernier film de ce programme, de cette fin d'année. C'est Utoya, 22 juillet, d'Eric Pop.
Mmh. Det var ikke kinoputter.
Hva var det?
Hva det som skjer?
Hva det? Hvis dine slapper av, det går bra.
Hva skjer?
Nei, det her er ikke gøy. Kan vi bare slutte?
Hva er det som skjer?
Kom dere vekk!
Kom dere
inn!
Kom
inn!
Kom
inn!
Ja, men hva
gjør
det
hvis det er politiet som sitter her? Hva er det som skjer? Det er politiet! Smile now, so don't be afraid to let them show you truth.
Utøya, 22 juillet, c'est le nouveau film d'Eric Pop et film norvégien et qui fait bien sûr allusion à ces attentats du 22 juillet 2011 au cours desquels une bombe qui a explosé près du siège du gouvernement norvégien à Oslo a fait 8 morts et 15 blessés pendant qu'en même temps sur l'île d'Utøya où avait lieu un camp de jeunes travaillistes un tueur déguisé en policier a tué 69 personnes et blessé 33 autres. Ça a donc été un massacre très traumatisant, évidemment. Ce sujet a donné lieu à un film de Paul Greengrass qui s'appelle Un 22 juillet et qui est sorti cette année sur Netflix, hein, que j'ai vu, que j'avais trouvé pas mal, mais voilà, sans plus. Et là, donc, Eric Pop reprend ce fait divers, mais vraiment en se centrant sur une jeune fille qui est présente sur l'île d'Utøya. Ensuite, tout, non pas vraiment avec son regard, parce que c'est elle qui est filmée, hein, on n'a pas une caméra subjective, mais on est tout le temps avec elle là où elle va et c'est ça vraiment la force du film, c'est de nous plonger au cœur de ce massacre par les yeux de cette victime, on tremble avec elle, on est avec elle tout le long, c'est très 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 nerveux et le film réalise aussi évidemment cette prouesse technique qui est souvent saluée d'être un seul plan séquence, ou presque parce qu'on a quelques vues des attentats au début qui je pense sont des images d'archives, sinon c'est un seul plan séquence et en plus le film se déroule en temps réel, 1h30, c'est-à-dire le temps qu'a pris ce massacre sur l'île d'Utøya. Donc pour moi, c'est une réussite. C'est malheureusement le récit d'un fait divers, mais c'est aussi un très bon thriller. Est-ce qu'Adrien sera d'accord avec moi ? On va découvrir ça tout de suite.
Bon, je sors de Utøya 22 juillet aussi, et là j'ai complètement été traumatisé par le film, c'est un film très choquant. À côté, Haneke et Michael Franco passeraient pour des réalisateurs du studio Disney ou des réalisateurs Marvel, tellement c'est un film brutal et violent. J'avais détesté Victoria, qui était sur le même concept, qui racontait un braquage en un seul plan séquence de 2h20. Là, le film dure 1h25, et c'est la tuerie d'Utøya... présenté en temps réel, et ça c'est hallucinant d'avoir réussi à faire ça. Le film il pose plein de questions éthiques sur comment on filme la mort, est-ce qu'il faut mettre le tueur dans le champ ou hors champ, est-ce que la caméra doit épouser le regard du tueur ou pas. Ce qu'il advient du personnage principal dans le film, je trouve ça génial et très très osé. Bref, c'est un film qui m'a beaucoup beaucoup impressionné. Moi, je pense que le cinéma d'horreur, comme le cinéma d'horreur apporte les meilleures réponses à l'écologie, il apportera aussi les meilleures réponses à l'extrême droite. Et ce film, c'est un coup de poing comme contre l'extrême droite qu'on voit fleurir partout. Du coup, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu, mais il faut avoir le cœur bien accroché. Et surtout, c'est que moralement, on prend du plaisir à avoir peur pour ce personnage principal filmé caméra sur épaule et à être embedded sur l'île d'Utøya. Mais après, moralement, ça pose quand même des questions éthiques et j'aimerais bien savoir les gens qui ont vécu cette fusillade ou les gens qui ont vécu des attentats, comment ils prennent un film comme ça, qui joue avec Donner. Et qui en fait quelque chose de popcorn, quoi. Donc ça me gêne un peu, mais sinon le film m'a énormément plu. J'espère qu'il vous a plu aussi.
Eh bien, on est d'accord avec Adrien, une fois n'est pas coutume. Peut-être même que Jean-Pierre sera d'accord avec lui cette fois.
Ah oui, moi c'est un film qui m'a vraiment scotché pour deux raisons. D'une part parce que c'est une tragédie qu'on vit vraiment viscéralement. On est avec la jeune fille qui s'appelle Kaja, qui est jouée merveilleusement par une jeune actrice que je connais pas, je ne sais pas si elle est professionnelle ou pas, qui s'appelle Andrea Berzen, voilà. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Comme elle, tout ce qu'on voit dans le film, c'est ce que elle voit. Alors on frémit, on a peur, on est angoissé, on partage tous ses sentiments. Il y a une séquence notamment absolument bouleversante où elle s'arrête près d'une camarade blessée. On pense que c'est une blessure légère parce qu'elle a été touchée à l'épaule, mais on sent que peu à peu cette fille s'en va, elle va mourir dans ses bras, et elle n'accepte pas sa mort, elle la secoue, et on se dirait, nous, si on était dans cette situation, je pense qu'on ferait la même chose. L'autre raison pour laquelle je suis scotché par ce film, c'est effectivement ce plan séquence qui dure 72 minutes et qui est exactement le temps qu'a mis le tueur entre son premier et son dernier meurtre. Il a mis 72 minutes avant d'être arrêté. Et là, on se demande, moi qui essaye de faire un peu de cinéma, comment il a fait, quelles sont les répétitions gigantesques qui ont dû être mises en ligne, en cause, pour arriver à faire ce plan séquence où on la voit courir, d'abord traverser tout un camp de toile avec des tas de figurants qui courent dans tous les sens, puis se perdre dans la forêt, puis revenir, puis arriver au bord de la mer. Enfin, d'un simple point de vue technique, c'est assez stupéfiant, mais encore une fois, c'est pas la technique, une fois qu'on l'a absorbée, qui vous retient, c'est ce sentiment d'urgence et de tragique qui vous prend et qui, effectivement, on parlait des meurtres en série tout à l'heure avec un autre film, American Gun Nation, et là on sent qu'effectivement, comme le disait bien Adrien, les meurtres en série, ça arrive tout le temps, partout, qui viennent de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des islamistes, on est toujours en danger, et ce film vous fait bien vraiment toucher ce danger parce qu'on est dans la peau de cette fille, quoi.
Et donc on est plutôt pour répondre à ta question, Adrien, même si c'est un grand moment de cinéma, il a aussi le mérite de dénoncer des faits politiques, tragiques, et c'est très bien. Utoya, 22 juillet, d'Eric Pop, est programmé notamment au cinéma Le Club. Nous avons bouclé notre programme, nous sommes déjà à l'heure d'émission, mais nous allons prolonger un petit peu pour la dernière de l'année et vous donner nos top flops de l'année, donc quelques idées de films à voir ou à éviter. On commence avec celui d'Adrien ?
Et me revoici pour la dernière fois dans cette émission pour vous faire mon top de l'année et mes déceptions de l'année. Du coup, en numéro 10, j'ai mis Revenge de Coralie Forgeard. Je sais que je vais faire hurler Jean-Pierre, mais moi j'ai adoré ce Revenge movie qui, contrairement à Grave, était vraiment un vrai film d'horreur mal élevé. En 9, j'ai mis un autre film mal élevé qui est Le Monde des Tatouages de Romain Gavras, que j'ai vraiment adoré, qui m'a vraiment beaucoup touché et beaucoup fait rire. Et que j'ai énormément aimé. En 8, j'ai mis la série de Bruno Dumont, Coin Coin et les Humains, qui pour moi, à l'intérieur, il y a la scène la plus drôle de l'année, à savoir la scène d'amour à côté de la station d'épuration, et c'est un film vraiment en prise avec le monde contemporain. En 7, j'ai mis The House of the Jack Built, et j'aurais pu mettre Climax aussi de Gaspard Noé pour continuer le fil des mauvais garçons insolents dans le cinéma actuel contemporain. Ensuite, en 6, j'ai mis un film beaucoup plus doux, c'est Aimer, plaire et courir vite, que j'ai vraiment adoré et qui m'a beaucoup touché. Je pense que c'est la seule œuvre que Christophe Honoré a réussi dans sa vie, parce que je suis allé voir sa pièce de théâtre Les Idoles sur le même sujet qui était vraiment nul. Mais là, plaire, aimer, courir vite, c'est vraiment fabuleux. En 5, j'ai mis Burning de Lee Chang-dong, que j'ai adoré. On s'était trippé sur ce film ici même, mais moi j'ai beaucoup aimé. Je connais beaucoup de gens qui ont trouvé ça surfait, mais moi ça m'a touché, c'est comme ça. En 4, j'ai mis Le Poirier Sauvage, le magnifique film de Nouri Bajcélan, complètement fou, avec des plans séquences qui dépassent l'imaginable. C'était juste sublime et trop beau, et ça m'a retourné le cerveau comme film. J'aimerais beaucoup que le cinéma me retourne plus souvent le cerveau comme Le Poirier Sauvage. En 3, j'ai mis Leave No Trace, ce film que j'ai vraiment, qui m'a vraiment bouleversé sur, sur l'écologie, le rapport à la propriété, le rapport à la nature. En 2, j'ai mis Sophia Antipolis de Virgile Vernier, que j'ai vraiment adoré, qui m'a bouleversé, qui est un film entre le cinéma et l'art contemporain. Et en 1, à égalité, parce que j'ai pas vu, su choisir, j'ai mis Make to My Love d'Abdelatif Kechiche et Ready Player One de Steven Spielberg, qui pour moi sont deux films sur le regard. Et ça me touche beaucoup aussi que mes deux films préférés de l'année soient un film du réalisateur qui a remis, des deux réalisateurs, donc de Spielberg, qui a remis la Palme d'Or à Abdelatif Kechiche pour La Vie d'Adèle. Et c'est deux réalisateurs que je trouve hyper importants dans le monde contemporain. Et en film qui m'ont déçu, ben, y a Cold War, que j'ai pas du tout aimé. Il y a Mutafukaz, j'en attendais énormément de ce dessin animé de Run, j'adore le travail de Run, j'adore son travail au label 619, j'adore ses BD, mais son film m'a un peu déçu, je ne l'ai trouvé pas assez rythmé. Et ensuite, un des films que j'ai le plus détesté de l'année, c'est Call Me By Your Name, voilà, mais ça ne mérite pas qu'on s'y arrête dessus, tellement ce sont des films ennuyés. Ennuyés, voilà, et dans mon top, j'aurais pu mettre Donbass aussi, j'ai oublié. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite de bonnes fêtes.
Merci Adrien, comme d'habitude, tu as triché et ajouté des films, avec notamment un premier film ex aequo. Nous n'avons absolument aucun film commun tous les deux, je pense qu'il n'y aura aucun de commun avec Jean-Pierre non plus, à qui je donne la parole maintenant pour
alors,
un
je vais,
top 10
oui,
un petit peu plus rapide.
Je vais essayer d'aller vite. Moi, c'est une année très intéressante, où il y a eu beaucoup de films très intéressants, mais paradoxalement, pas d'incontestable chef-d'œuvre, enfin en tout cas, je ne crois pas. Alors je vais aller vite, sans ordre, c'est pas je ne fais pas de chronologie comme Adrien. Alors, il y aura Kedi, des chats et des hommes, de Selah Torun, puisque j'adore les chats. Ça, c'est des chats d'Istanbul, très, très bien filmé. Il y a le western de Scott Cooper, Hostile, très, très bon western.
Qu'on a en commun.
Il y a En guerre, de Christophe Brisé, parce que je trouve que c'est un film social vraiment très intéressant, passionnant, très proche du documentaire. Alors, en science-fiction, mon meilleur, c'est quand même Jurassic World, Fallen Kingdom, de Juan Antonio Bayona. C'est peut-être le meilleur de la série, avec des monstres extraordinaires. Il y a Parvana, de Noram Tvonek, qui est la petite afghane qui doit se déguiser en garçon pour échapper à la vindicte.
Qui a failli être
et là,
dans
c'est
top
un,
10.
C'est un dessin animé, hein, donc c'est d'autant plus intéressant. Il y a The Guilty, de film danois de Gustav Møller, dans un centre comme ça de recueil d'appels de gens en péril. Film intimiste, très intéressant, très original. Il y a Black Klansman, de Spike Lee, quand même.
Qu'on a en commun dans notre top 10 aussi,
qu'on a en commun. Il y a JSA, Joint Security Area de Park Chan-wook, sur la Corée du Nord et la Corée du Sud, vue par deux soldats qui fraternisent de nuit quand ils sont de garde de chaque côté de la frontière. C'est très intéressant, ce genre de film, sur la Corée du Nord, qui est très, très peu abordé. J'ajouterais The First Man de Danny Chazelle, parce que c'est quand
qui
même un documentaire reconstitué qui est très 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 bien fait, il n'y a pas une faute.
Sur la lune.
Et enfin, comme je viens de le dire, Utøya 22 juillet, qui
dont
m'a passionné et bouleversé à la fois.
Alors
flop, dans le flop 3.
On n'en a retenu que 3 pour le flop. Hein.
Bon, dans le flop 3, il y a Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, film soi-disant nouvelle vague sur un jeune qui veut percer à Hollywood, mais ça part dans tous les sens, c'est prétentieux comme tout, j'ai détesté. Et deux films de Claire Denis, Un beau soleil intérieur, qu'on avait tous détesté dans
oui,
une émission ancienne, et son soi-disant film de science-fiction, lamentable, High Life.
Oui,
voilà.
C'est bien gardé de voir, du coup, Florence et moi. Florence.
Alors, moi, dans mes tops, en 10, j'avais mis Game Night. C'était donc une histoire où on suivait une soirée-jeu qui dérape, où en fait, on avait... C'est assez drôle, en fait. On voit des gens qui font un jeu, il y a une espèce de jeu en temps réel qui se passe. Enfin, bon, bref, c'est vraiment très surprenant. Les acteurs sont assez fous. Et c'est une bonne une comédie américaine. En 9, j'ai mis Pupille, dont on vient de parler. En 8, Vent du Nord, c'est donc un drame social sur la misère sociale en France avec le poids de la bureaucratie par rapport aux envies
que
de liberté.
J'avais beaucoup aimé aussi.
Voilà. En 10, j'ai mis Au poste de Quentin Dupieux, parce que j'aime toujours son univers complètement absurde où on suit une espèce de polar revisité complètement absurde. En 6, j'ai mis Thunder Road. De Jim Cummings 2 que j'avais beaucoup aimé aussi. C'est un drame social où on suit un homme où tout lui tombe dessus, en fait on le voit qui se dépatouille dans sa vie. En 5, Jusqu'à la garde.
qu'on a donc en commun.
que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc là, c'est un drame social où c'est donc on suit après un divorce une femme qui doit échapper à son ancien mari. Mais enfin bon, bref, c'est assez classique comme histoire, mais c'est extrêmement bien réalisé. En 4, bah, j'ai mis Une affaire de famille que j'ai donc beaucoup aimé avec cette tranche de vie, les valeurs. Enfin, si on vient d'en parler. En 3, bah, j'ai mis Les taux. Parce que vraiment, j'ai trouvé qu'il était vraiment très original. On n'a rien vu comme ça cette année. Il est vraiment très différent. Il ressemble à rien d'autre. En 2, Le Grand Bain, un film donc d'humour français. J'ai également vu la version anglaise Swimming with Men, regarder les hommes nager, qui est pas encore sorti en France, mais qui est très bon aussi. Bon, je pense que je préfère Le Grand Bain quand même. L'humour m'a plus touchée. En 1, j'ai mis Three Billboards, les panneaux de la vengeance, avec cette femme qui veut venger sa fille qui a été violée et obliger la police à faire une enquête pour retrouver le criminel. Voilà.
Et en flop ?
En flop, donc je vais pareil me contenter d'en dire 3. J'ai trouvé que c'était une très bonne année. Hein. J'ai vu 50 films cette année sortis en 2018 et j'en ai pas des très très mauvais. Mais dans mon top 3, je mettrai Assassination Nation. Lady Bird, qui est un autre teen movie où je m'étais ennuyée, mais au possible. 15h17 pour Paris de Clint Eastwood aussi, que j'avais trouvé. Ouais, voilà. Voilà.
Eh bien, oui, grosse année. Moi, j'ai vu une centaine de films cette année. J'en ai retenu une vingtaine que j'ai adorées. Et parmi ces 20, j'ai réduit à 10, évidemment, pour jouer le jeu. J'en ai plusieurs en commun avec vous, dont je ne redirai pas grand-chose. Du coup, il y a Jusqu'à la garde, le film français de Xavier Legrand, comme Florence. Pupille aussi, comme Florence, dont on a parlé durant cette émission. Mon troisième film français de ce top 10, c'est Les Chatouilles, d'Andréa Bescon et Éric Métayer, dont j'ai adoré et le sujet et la forme. Et puis sinon, alors j'ai quand même beaucoup de films américains. J'ai Hostile, le western de Scott Cooper, en commun avec Jean-Pierre. Black Landsman, le Spike Lee, en commun avec Jean-Pierre aussi. J'ajouterai en film américain également Star is Born de Bradley Cooper, qui m'a beaucoup touchée. Bohemian Rhapsody, encore un film musical sur le groupe Queen de Bryan Singer, qui m'a beaucoup touchée aussi. Et puis, pour finir ce top 10, un film marocain, c'est Radia, de Nabil Ayouch, qui suit plusieurs personnages dans le Maroc d'aujourd'hui, à Casablanca. Et puis, In the Fade, de Fatih Akin, une belle vengeance de femme avec une magnifique Diane Kruger, qui a perdu son fils et son mari dans un attentat. Voilà mon top 10 de cette année 2018, qui n'est pas tout à fait fini. Donc, il sera peut-être à corriger vraiment à la fin de l'année. Pour mon flop 3, alors il y a vraiment un film d'action très bourrin. C'est 24 heures limite de Brian Smurfs. Je comprends même pas qu'on puisse encore voir ça au cinéma. Il y a Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Si Adrien était là, il ferait des bons. Je suis sûre qu'il aurait pu le mettre dans son top 10. Film très, très bizarre, très fantaisiste, mais vraiment inintéressant au possible, selon moi. Et puis, En liberté de Pierre Salvadori, qui est un réalisateur que j'aime bien, mais alors là, dans cette dernière comédie, m'a vraiment déçue, devant laquelle Jean-Pierre et moi, nous sommes beaucoup
j'aurais pu, s'il y avait eu un top, un flop 4, effectivement, il y aurait été, ça c'est sûr.
Bon, on a beaucoup débordé, mais on espère qu'on vous aura donné envie de voir des films. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous, évidemment, l'année prochaine pour Ciné Qua Non. Merci de nous écouter.
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. Sinon rien.